Verset 35, d'ailleurs. Excusez-moi, chapitre 35, verset 1. Bien, on vous a distribué deux feuilles, n'est-ce pas? Et comment ça se fait? Linda, tu as donné à tout le monde? Pourquoi c'est resté en panne ici? Montrez-moi ça, mais non, il ne s'agit pas de ça du tout. Voilà, montrez-moi ça. Ah oui, c'est ça. Bon, alors, distribuez ça rapidement. Bien, alors écoutez, en attendant, je vais vous rappeler brièvement ce que nous avons vu en schématisant la semaine dernière, parce que le sujet est relié à celui de cette semaine. En tous les cas, je vous signale qu'on va commencer au chapitre 35 dans le livre. La Menahée. Alors, comment ça se fait que vous n'avez pas ces livres?
Si, il y en a donné un pour deux.
Mais pourquoi même pour deux?
Parce qu'il
n'y
a pas un
pour un. Mais si.
J'ai regardé la réunion et puis...
Mais ça se multiplie ou ça disparaît?
Non, ça a toujours été comme ça.
Ah, ben, il faut le signaler quand même. Toujours été
comme ça. Il y en a un pour deux, il y en a deux.
Mais prenez des Bibles. Il y a des quantités de chromachines. Là. Il y a des quantités de chromachines. Là. Voilà, ça y est, faites ça rapidement. Alors, je...
Tout le monde a des livres.
Bon, merci. Bien, alors je vous signale la semaine dernière que... Je vous ai donné une référence, que je vais vous rappeler d'ailleurs, au milieu de la paracha de Kitissa, qui était la paracha de la semaine dernière, la Torah a rappelé la loi du Shabbat. Alors nous avons étudié essentiellement la raison pour laquelle les versets rappelant la loi du Shabbat sont reliés au chapitre 32. Est-ce que c'est bien chapitre 32? Oui. C'est la fin du chapitre 31, les versets de Shabbat. C'est relié au chapitre 32 où la Torah commence à nous raconter ce qui est connu sous le nom de la faute du veau d'or. Vous rappelez de cela? Je ne sais pas si tout le monde était là, mais je veux rappeler que très très brièvement le lien essentiel. Quel lien y a-t-il? Pour quelle raison il est nécessaire de rappeler l'enseignement du Shabbat au moment où la Torah interrompt le récit des lois concernant la construction du Mishkan, du tabernacle, et nous raconte cet épisode du veau d'or. L'épisode du veau d'or, la faute du veau d'or, est rattachée d'une façon générale à la faute d'idolâtrie. Mais je voudrais quand même rappeler deux précisions. Une qui se base sur l'enseignement donné par Judas Lévi dans le Kuzari. Il ne s'agit pas d'une idolâtrie à proprement parler, qui consisterait à remplacer Dieu par une idole. Retenez bien les choses, parce qu'on n'aura pas le temps de voir ça dans le détail dans le texte. Mais retenez au moins la définition. C'est le fait d'avoir choisi comme signe de représentation du Créateur une réalité de signe, je ne veux pas dire symbole, c'est un mot grec, mais en tout cas de signe, que la Torah n'a pas prescrit pour représenter l'idée du Créateur. Retenez bien la formule, je ne voudrais pas prendre trop de temps à vous analyser cela, une autre année, peut-être on verra les textes. Là, je vous cite le Kuzari de Judas Lévi. Je vais l'expliquer de manière extrêmement rapide et extrêmement simple. La seule figuration autorisée par la Torah, et d'ailleurs que la tradition juive a intégrée finalement de façon, disons, naturelle et spontanée, c'est les lettres de l'alphabet. Vous remarquerez d'ailleurs que dans toutes les synagogues, les 10 commandements, soit il y a les premiers mots des 10 commandements, soit il y a Aleph, Bet, Gimel, Dalet, jusqu'à Yud. Vous rappelez ça? Alors, ce dont il faut se rappeler, c'est que Dieu s'est manifesté par la parole. Tous les niveaux de manifestation de Dieu, la création, la révélation, la prophétie, et donc la parole de prière qui revient de l'homme vers Dieu, c'est par la parole. Le seul lien qu'il y a entre le Créateur et la créature, C'est pas la parole. C'est le seul véhicule de signification du lien entre Dieu et son monde qui est autorisé par la Torah. C'est les lettres de l'alphabet. Retenez bien cela. Le fait d'avoir choisi un autre système de symbolique, de signification, est déjà une faute. Par le seul fait que c'est un système que la Torah n'a pas demandé. C'est ce qu'on appelle Avoda Zara, un service étranger. C'est sur le chemin de l'idolâtrie. Mais c'est pourquoi j'ai commencé à dire, c'est pas l'idolâtrie vraiment. C'est pour ça que j'ai commencé à dire que le Judas Lévi précise dans le Kuzari, il faut comprendre cette faute à la hauteur où se trouvait cette génération et ne pas imputer une faute grossière à une génération qui est une génération de géants, qui est appelée Dordéa, la génération de la connaissance. C'est cette génération qui a connu les événements de révélation, par l'événement, les miracles de la sortie d'Égypte, par la parole, la révélation de la Torah. C'est une génération privilégiée. Toute la liturgie juive se base sur les événements vécus par cette génération-là, la génération de la sortie d'Égypte. Je sais très bien, j'ouvre une petite parenthèse, mais elle est importante. Je sais très bien que les modernes ont tendance à mépriser ce qu'ils appellent la génération du désert. Mais ça vient à travers la traduction des traducteurs qui emploient ces expressions pour des situations de société qui n'ont rien à voir avec la société d'Israël. La génération du désert, la génération perdue, vous connaissez tous ces clichés de la littérature française. Ils ont la littérature mondiale. Ça n'a rien à voir avec Dora Midbar, qui est appelée, la génération du désert est appelée dans l'hébreu, dans le récit biblique, Dordéa, la génération des hommes de la connaissance. C'est à ce niveau-là qu'il faut comprendre quelle est leur faute. J'espère que c'est suffisamment clair ce que j'ai signalé. En passant, il y a toujours chez ce qu'on appelle les modernes, entre guillemets, une espèce d'orgueil de situation. Ils ne se rendent pas compte qu'est-ce que c'est que les modernes par rapport aux anciens. Il y a une expression, en tout cas dans la vision traditionnelle de l'histoire, une expression de la tradition juive qui est très importante à comprendre. Ceux qui viennent après voient un peu plus loin que ce qui était avant. Pourquoi ? Parce qu'ils sont des nains montés sur des épaules de géants. Est-ce que c'est clair ce jeu-là ? Vous connaissez, réfléchissez bien à ça. Vous connaissez là. Je vais vous en parler pendant des heures, mais ça suffit de citer déjà la formule. Mais c'est l'expression traditionnelle Aharon, Aharon, Haviv. À condition qu'il sache qu'il est Aharon, sinon il n'est pas Haviv. Il est tout simplement Gaftan. C'est clair ce jeu-là. Je reviens donc au sujet. Ça, je vous parlais de la génération du désert. En fait, je vous cite Judas Lévi, dit « La faute, c'était d'avoir choisi un système de référence au Créateur à travers ce que représentent les signes du zodiaque. » Et ça, la Torah n'a pas demandé. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas un sens. Mais la faute, c'est d'avoir mis une médiation que la Torah n'a pas demandé. La seule autorisée par la Torah, c'est les lettres de l'alphabet. Alors là, vous connaissez tous les Midrashim, c'est par les lettres de l'alphabet que le monde a été créé. En fait, c'est surtout l'importance de la parole dans la tradition biblique. Dieu a créé le monde par la parole, il communique avec sa créature par la parole, et interdiction de faire semblant d'avoir vu. C'est la grande différence entre écoute Israël et voix Israël. C'est un sujet extrêmement important, Shema Israël, Ré Israël. Il y a les deux commandements, mais il y a un ordre. Il faut d'abord Shema Israël, qu'on comprenne ce qu'on a vu, et après, on est appelé à voir ce qu'on a compris. Mais si on voit d'abord, avant d'avoir compris, c'est l'idolâtrie absolue. Ceux qui voient avant d'avoir compris ne savent pas ce qu'ils voient. Est-ce que c'est clair celui-là ? Mais ceux qui s'arrêtent à l'écoute, et on écoute de quelqu'un d'autre, avant d'avoir vu par eux-mêmes, ne sont pas arrivés à la connaissance. Non, mais il y a un ordre. C'est d'abord Shema Israël et ensuite Ré Israël. Les Goïm ont choisi la vision, nous avons choisi l'écoute. Mais c'est ces deux modalités de la connaissance. Je vous donnerai une expression familière qui le montre bien, c'est les deux modalités de la connaissance, mais il y a un ordre. Simplement, je complète. Pour la halakha, la connaissance par la vision est plus forte que la connaissance par l'écoute, mais il y a un ordre. C'est un témoin qui dit « j'ai vu », son témoignage est beaucoup plus valable qu'un témoin qui a dit « on m'a dit que ». Vous voyez la différence ? Seulement, il s'agit d'être quelqu'un qui sait ce qu'il a vu. Et s'il n'a pas, on ne lui a pas expliqué ce qu'il a vu, et bien ce qu'il voit. Je vous donne un exemple très simple. Vous lisez les journaux. Le même événement, on vous en rend compte dans différents journaux comme des événements différents qui se passent sur des planètes différentes. Vous avez remarqué ça ? l'exemple du journaliste comme faux témoin, ça, je crois que c'est l'exemple le plus clair de la civilisation contemporaine. Et d'ailleurs, les journalistes de la vision s'arrangent pour falsifier la vision. Je parle de la télévision. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. D'ailleurs, ça restera dans l'histoire, la guerre du Golfe. Le monde entier a été mené en bateau par la télévision américaine, vous savez ça. Enfin, en bateau, en avion. En tout cas, pour revenir au sujet. Et une deuxième remarque, qui va à la suite de ce que dit Jules Arrivi, c'est qu'en réalité, la faute de cette génération, et cette faute avait été induite par, on reviendra au chapitre 12, je vous donnerai la référence, la fin du chapitre 12, cette foule qui est sortie d'Égypte avec Israël et qui n'était pas d'Israël, et que le texte appelle le Haïlevra, on en parlait abondamment la semaine dernière, Ken, mais nous allons revenir sur cette définition, tous ceux qui n'étaient pas d'Israël, mais qui sont sortis d'Égypte avec Israël. Là, il me semble, on a parlé assez longuement, pourquoi Moïse a pris sur lui d'accepter d'intégrer Israël, tous ces non-Israël qui sont sortis d'Égypte avec Israël. Je ne veux pas revenir sur les détails. Eh bien, leur faute avait été de demander une idole, un signe d'idolâtrie, pour remplacer non pas Dieu, mais Moïse. Je crois que c'est cela que nous avons appris la semaine dernière, enfin rappelé la semaine dernière. Donc, alors, ce qu'il faut comprendre très rapidement, c'est la nécessité, pardon, une gorgée d'eau. Est-ce que j'ai dit la voir très rapidement, nous allons voir la... Une des manières de comprendre, une des raisons qui indique la nécessité de rappeler l'alliance du Shabbat dans ces contextes-là, premièrement, le contexte de la parasha Kitissa, le récit de la faute du vol. Ce que nous avons appris, on a lu les versets, c'est que l'alliance du Shabbat a pour finalité essentielle de rappeler qu'il y a eu une création. C'est bien clair. Or, la définition de l'idolâtrie, c'est précisément de mettre en échec la notion du Créateur. C'est-à-dire de diviniser une des forces de la création, de diviniser une des forces du monde. Celui qui est idolâtre nie la création du monde. Celui qui croit en la création du monde rejette l'idolâtrie. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Je vous donne une petite parenthèse, je vous montrer jusqu'où ça va dans la halakha. Mais est-ce que l'idée est claire, hein? À partir du moment où il y a un contexte de risque d'idolâtrie, la loi du Shabbat est rappelée. Parce que la loi du Shabbat, c'est l'alliance de la création. Et nous verrons l'importance du lien entre le Shabbat et Moïse. Je reparlerai tout à l'heure. Vous savez que, qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle le vin kasher? Je sais que parmi vous, beaucoup le savent, ceux qui n'en boivent pas, enfin ceux qui s'en privent. Mais je voudrais l'expliquer un peu pour tout le monde. C'est pas un problème simple. Parce qu'il y a beaucoup d'idées vagues à ce sujet. Il y a une interdiction de la Torah, qui est l'interdiction du Yaïn Neser, le vin des libations, qui servait aux libations des rites idolâtres. Vous avez compris ce que ça veut dire en français, la libation. Il y avait des libations d'eau, il y avait des libations de vin. Et alors, Neser, c'est la libation. Et Yaïn Neser, c'est le vin qui servait à ces rites d'idolâtrie. Et ça, c'est une catégorie de vin interdit. Une deuxième catégorie de vin interdit s'appelle le Stam Yain. Stam Yain, c'est-à-dire le vin simplement interdit, Stam, c'est le vin dont se servent les goyim. C'est rattaché à un commandement de la Torah. Et réfléchissez bien, ça c'est des très rares fois que la Torah donne la raison des commandements. Et en général, les rabbins n'aiment pas qu'on donne la raison des commandements. Parce que, en général, il y a la réaction suivante. « Ah, c'est ça la raison, ça ne va pas pour moi. » Vous voyez ce que je veux dire? On a donné l'exemple du roi Salomon. Hein? Quand la Torah a dit « Il faut multiplier les femmes », Salomon a dit « Oui, je sais. » Parce que si on multiplie les femmes, on risque de multiplier leurs idolâtries. Et ça ne veut pas dire que d'après Salomon, toutes les femmes, c'est des sorcières, mais ça mène à l'idolâtrie. c'est un autre sujet. Et puis il a dit « Bon, moi, je serai plus fort que ça. » Et bien, il n'avait pas été plus fort que ça. Etc. Et alors, la Torah dit, pas leur vin, pour pas leur fille, et pas leur fille, pour pas leur Dieu. Et on pourrait se dire, ça fonctionne pas pour moi. Je peux aller très bien trinquer au champagne, comment on appelle ça? Le champagne qui a un défaut. Moum. Hein? C'est comme ça que ça s'appelle. Et puis, il m'arrivera rien. Observez bien en microsociologie comment ça se passe. Ça commence par trinquer, et ensuite ça continue à trinquer, et ensuite, on se marie à l'église. J'ai raccourci beaucoup d'étapes. Mais évidemment, ça se passe comme ça. Et alors, ça s'est passé comme ça dans les plaines de Moab, avec les filles de Midian. Vous rappelez de tous ces récits. Ne croyez pas que quelqu'un est à l'abri, personne n'est à l'abri. Je pourrais vous citer des grandes familles où ça arrive. Vous pourriez m'en citer plus. En tout cas, pour revenir au sujet, le Stam Yain, c'est à l'époque où il n'y avait plus ces sciences de l'arabe d'Azara, ces sciences de l'idolâtrie, avec chaque idolâtrie, sa liturgie propre, sa discothèque propre, si vous voulez, son sanctuaire propre, ses rites propres et son vin nécer propre. Aujourd'hui, il y a Stam Abou Dazara. Alors, c'est Stam Yain qui est interdit. Est-ce que vous avez compris en hébreu? Non. Et alors, pourquoi je vous ai parlé de l'interdiction du vin? À propos d'idolâtrie, rappelez-moi le lien. De temps en temps, je vous ai des questions pièges comme ça. D'où on était parti? Plus fort, quand même.
Le rapport entre l'idolâtrie et Shabbat.
Très bien. Rappel.
L'idolâtrie, la négation de la création.
Très bien, très bien. Et alors là, je vous citerai l'enseignement du Rav Kook au point de l'analyse que je vous ai rappelée. Alors, il dit, je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé. Il y a très très longtemps, il avait reçu une délégation de pasteurs protestants qui avaient des questions de religion à lui poser. Et puis, les pasteurs protestants s'enorgueillissaient, comme on dit en français, étaient fiers que, pas comme les catholiques où il y a beaucoup de statues dans les églises, chez les protestants, c'est très très symbolique. Alors, un pasteur a pris le courage de lui demander « Est-ce que vous considérez que nous sommes plus monothéistes que les catholiques qui eux, ont des statues ?» Il dit « Vous avez Stam statue. » Et puis, donc, vous avez compris ça. Dans la conversation, ils ont parlé de l'athéisme, du panthéisme. Ils donnaient la même définition. Les idolâtries, c'est une idole. Mais l'athéisme, le panthéisme, c'est le monde entier comme idole. Stam, Pesel. Okay. Vous voyez à peu près les définitions. Retenez, qu'est-ce que ça veut dire Stam Yain? Pourquoi j'insiste? J'ai souvent entendu des gens de très bonne foi dire « Ah, mais nous savons qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Yain Nesser. Par conséquent, Stam Yain, on peut faire qu'il touche dessus. » C'est faux. Il y a Stam Abzazara. Bon, c'est clair, c'est déjà. Bon. Alors, je referme cette parenthèse. Justement, pour mettre bien ça en évidence, l'importance de la notion du Shabbat concernant le premier enseignement de la Torah, d'abord dans le récit de Maaseh Bereshit, et le premier enseignement de Moïse avant même le Sinaï, dans les lois qui ont été mises, ce qu'on a été révélé à Mara, la loi principale, c'est la loi du Shabbat que Moïse a donnée avant même qu'elle soit révélée. Vous vous rappelez de ça? On enseigne à propos de Ismach Moshe Bematena Trilko Ki Evenemat Karatalo, qu'on dit dans la tefila de Shabbat. Je vous raconte comment le Talmud l'explique. C'est que Moïse, de sa propre initiative, était allé voir le Pharaon pendant l'esclavage d'Égypte pour lui dire « Tu as intérêt à donner un jour par semaine à ces esclaves de se reposer, ils travailleront mieux le lendemain. » Et le Pharaon était convaincu et a donné le Shabbat que Moïse a demandé. Avant même, ça a été révélé comme Torah. Avant même que Moïse soit prophète de la Torah. Et d'ailleurs, je vous ai signalé un peu ça la fois dernière ou la fois d'avant, c'est que toute la révélation à Moïse s'appuie sur l'expérience de Moïse préalable à la révélation. Vous vous rappelez de cela? Alors Moïse, c'est l'homme du Shabbat. Et c'est le premier qui a enseigné, ça je vous dirai un peu plus tout à l'heure, entre autres grands enseignements de Moïse, qui a enseigné le monothéisme du Créateur et la libération de la servitude. Et ça va ensemble, comme nous allons voir tout à l'heure. Eh bien, je reviens donc à cet exemple. Vous savez que, pour vous dire jusqu'où ça va, c'est ce scrupule du risque de nier la création. Vous savez qu'on interdit à quelqu'un qui n'est pas chômer mitzvot de toucher le vin. Vous savez ça? Et en fait, la halakha est que on considère chômer shabbat. J'ai parlé comme un haredi en mélangeant toutes les mitzvot. Chaque mitzvah pour elle-même. Alors aussi, mitzvot, chavilot, chavilot. C'est le grand principe de la Torah. C'est un grand problème qu'on a avec les Haredim. Ils font ça, mettez-moi 613 d'un coup. Okay. Alors que la Torah, on pourra... Alors que la Torah, c'est chaque mitzvah est pour elle-même. Si on a mangé un jour de Kippour qui tombe à Hanouka, on dit quand même les chatamazos. Parce qu'on a mangé en dehors de la soukha. Bon, ça vous a compris. En tout cas, pour revenir au problème, ça n'a rien à voir. Chaque mitzvah, bon, ça n'a rien à voir, bien sûr, ça. Ça y est, j'ai pensé à la Knesset, je reviens en Israël. Qu'est-ce que je disais? Oui. Et pour la halakha, quelqu'un qui n'est pas shomer Shabbat, c'est comme s'il niait le Créateur, et donc c'est comme s'il était idolâtre et il renlevait un essor. Voilà l'origine de la loi. Et j'ai connu des chassidim, avec qui je suis très très lié, qui s'arrangent pour que personne ne regarde la bouteille de vin qu'ils vont acheter. Vous avez dû remarquer ça, que les chassidim, dans leurs échoppes, achètent du vin déjà enveloppé et sous la table. Et ça va jusque-là. C'est-à-dire, ça va jusqu'au fait que si quelqu'un qui n'est pas shomer Shabbat a regardé le vin, alors pour la halakha, il n'y a aucun problème. Si le vin est cacheté, même si c'est n'importe qui l'a pris dans les mains, on ne l'a pas ouvert. Vous connaissez ça. Et alors, regardez bien le danger de donner la raison des mitzvot. Je vais raconter une histoire. Vous savez que c'est les amitiés des anciens combattants. Les soldats qui ont fait la guerre ensemble, les anciens combattants, ils restent amis toute la vie. J'étais donc dans un bataillon où il y avait quelques juifs. On est sortis de la guerre très amis. On avait décidé que 40 ans après la guerre, on se retrouverait les rescapés. On s'est retrouvés dans la banlieue parisienne, chez un juif que je connaissais d'ailleurs, plus ou moins pratiquant, mais qui m'avait assuré, avant de nous inviter chez lui, que tout serait kacher, minamaha adrin, chez la maha adrin, de ce qu'il peut y avoir dans la banlieue parisienne, d'autant plus que sa fille va dans une école loubavie, c'est elle qui va surveiller. Alors on s'est réunis, il me semble que j'ai raconté ça, mais je ne sais pas où, dans quelle école. On s'est réunis, et puis au moment de servir le vin, il m'apporte la bouteille avec le tire-bouchon et il me dit, je t'en prie, ouvre-le. Je dis, ben ouvre-toi, t'es juif. Il dit, non, ma fille m'a dit que, étant donné que mon Shabbat, il n'est pas tellement là. Alors moi, j'étais pris dans un dilemme. Ma fille était présente. Le respect des parents, c'est des 10 commandements. Et l'histoire de que si quelqu'un n'est pas pratiquant de Shabbat comme il faut, c'est comme s'il était idolâtre. Ça, c'est une humre au 13e degré des chassidim. Et ça ne fait pas le poids. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du cas de conscience. Alors, tranquillement, gentiment, j'ai pris un quart d'heure, j'ai expliqué, en parlant à la fille pour l'assistance, que si ce n'était pas le Baal HaBeit qui ouvrait le vin, je n'en boirais pas, parce que voilà l'origine des choses et qu'il ne faut pas confondre les choses inconfondables, et que le respect des parents est faire honte à son père devant des invités, surtout dans un tel standing, parce qu'on est dans une école loubavitch, on ne sait pas de quoi on parle. Et alors, vous savez la conséquence. Bon, après j'ai pris la fille à part, je l'ai consolée, mais eh bien le juif il m'a dit, si c'est comme ça, maintenant je serai chaud, mais je... Vous voyez comment ça va? Ça va comme ça. Alors, en tout cas, pour revenir, j'aime bien ça, quand il y a une compétition de mitzvot, surtout une mitzvot des 10 commandements, avec une humra au 15e degré. Parce que d'où vient la humra? C'est plus le temps où quelqu'un qui n'est pas vraiment shomer Shabbat est idolâtre et ne croit pas en la création du monde. Ça n'a plus rien à voir. Sauf pour des hommes pervers. Je ne sais pas si c'est clair ce livre. Est-ce que c'est clair ce livre? Vous voyez pourquoi c'est interdit? Je vous donnerai la référence à l'amiral Baba Kama si vous voulez. Celui qui sort une halakha d'un livre alors qu'il faut la demander au rabbin du temps, on l'appelle Mevalé Olam, il détruit le monde. On n'a pas le droit de prendre un Sefer Torah en papier à la place d'un Sefer Torah vivant. Je ne sais pas si c'est clair celui-là. Okay? Mais c'est écrit dans la Gemara. Okay? Et on a dit ça pour ceux qui tirent une halakha de la Mishnah. Et de notre temps, on dit ça pour celui qui tire une halakha du foin à Arour alors qu'il y a un rabbin présent. Je peux vous raconter énormément l'histoire de Beit Din. Qu'est-ce que ça veut dire Talmid Haram? C'est le Talmid d'un Haram. C'est pas le Talmid d'un livre. Ça s'appelle Navon. C'est tout à fait autre chose. Okay. Non, puisque j'ai parlé de ça, je vous parle de ça en passant. Faites bien attention à ces mots-là. Vous vous rappelez d'où je suis parti, la fête du Vaudor. Qu'est-ce que c'était? On accuse les gens de la génération d'avoir été idolâtres. Alors, je citais Judas Lévy. Vous dire, faites attention de quoi il s'agit. Il s'agit du fait de mettre en question la création du monde dans cette sorte d'idolâtrie. Et je vous donnais cet exemple limite, le Yahin, le Samyaïm. De toutes les façons, la halakha est claire. On ne prend de vin que garanti. C'est évident. En plus, c'est pas si simple que ça. Je vous raconte une anecdote, mais je continue. Vous voyez que la bijou, c'est des anecdotes. mais je continue. Seulement, qui peut se permettre d'accuser quiconque d'être idolâtre, c'est-à-dire nier la création du monde, parce qu'il n'est pas Shomer Shabbat Kehil Chatou? Vous voyez à quel niveau est l'équivalence de définition? C'est ça le problème. Faites bien attention à ça. Surtout pas une fille, son père, etc. Et j'ai vu, Savlanout. Chaque fois que tu lèves la main, tu me fais penser à autre chose. Alors, attends, oui, je voulais raconter une anecdote, mais à propos de quoi? Tu vois, tu m'as fait oublier. Tu as fait exprès. Je sais plus. Bon, ça me revient à peut-être. De quoi je parlais quand je vous ai dit je vais raconter une anecdote? Parle plus fort. Non, non, ça c'était trois phases avant ou trois phases après. C'est pas ça. Bon, peu importe, qu'est-ce que tu veux demander?
Une seule chose qui m'a étonné, je n'ai pas bien compris. Je comprends qu'on ne puisse pas mettre en équivalence une halakha de la Torah, une mitzvah de la Torah, avec une kumra au 15e
degré. Une mitzvah des 10 commandements.
Alors, c'est exactement le point que je voulais poser. Pourquoi des 10 commandements, finalement? Est-ce qu'il y a des différences entre les 10 commandements et les 613
autres? Il y a une différence pour la Honesh. Fais attention. Et puis c'est une mitzvah klalit. En fait, du point de vue halakha stam, tu as raison de poser la question. Une mitzvah, c'est une mitzvah. Seulement, I ata yodea matan tzraran shel mitzvot. Seulement, il y a quand même une différence de perspective entre une mitzvah de aseret adibéot qui vous d'abahem et une chumra au 13e, 14e degré, ou même au 1er degré. Il faut bien faire attention à ça. Si j'avais le temps, mais je voudrais vous faire le cours. Je vous citerai la première fois que j'ai eu une expérience au Bet Din, une question de Dayanout. Ça m'a pris 6 heures à étudier la question, avec 3 dayanim différents, et à quel point je me suis rendu compte que c'est très dangereux de lire un livre et de décider. Il faut demander au dayan. Et encore, c'est pas simple. Il faut demander au dayan du temps. Et qu'est-ce que ça veut dire, dayan du temps? Est-ce qu'on va demander au dayan du 14e siècle ou du 22e siècle? C'est que dans notre siècle, il y a des dayanim du 14e siècle et du 22e siècle. Mais il faut demander à celui du 20e siècle. Et qui sait? C'est le grand mystère. Depuis que les Romains ont arrêté la Smicha, personne ne sait où est Ashofet Shabbato. Il n'y a que le bon Dieu qui sait. Mais alors, quand j'ai demandé à mes maîtres, mais comment on va faire? Alors, il m'a dit, et après je vous raconte une anecdote, mais rappelez-moi que c'est Yom HaSmaout. Alors il m'a dit un verset, Haram Enav Berosho. Le Haram a ses yeux dans sa tête. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Alors il a continué, il me dit, qu'est-ce que tu crois qu'il les a dans les pieds? Il a une tête pour avoir des yeux. Si tu n'as pas de tête, qu'est-ce que ça peut te faire toutes ces questions-là? Si tu n'as pas de tête, si tu ne sais pas où est le chauffeur de Shabbat, si tu n'as pas de tête, alors peu importe que tu suives celui-là ou celui-là ou celui-là, c'est Stam Kacher. Mais si tu veux savoir quelle est la halakha vraiment, va au chauffeur de Shabbat. Tu me demandes qui c'est que tu n'as pas de tête. Vous avez compris? Bon. Alors, qu'est-ce que vous dire de Yom HaTzmaout? La première année de Yom HaTzmaout, j'en trouvais à Jérusalem d'ailleurs. Et puis, j'avais un de mes rabbanim qui était un très, très grand pilier du Mizrahi à l'époque. Un dayan polonais d'Alger. Il était d'Alger, dayan Alger, mais il était rescapé de la Shoah, c'est pour ça qu'il était Alger. Et alors, j'étais embêté, je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Yom HaTzmaout, ça tombe en plein dans la mer. Je savais pas quoi faire. Il n'y avait pas encore de psak, ni sur Anahour, de Yom HaTzmaout, ni rien du tout. Je suis allé, je dis, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, quoi, qu'est-ce qu'on fait? T'es juif ou t'es pas juif? C'est tout ce qu'il m'a dit. Et qu'est-ce qu'on fait? Je dis, on se rase là-bas, on se rase pas là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Tiens, je vous tiens, ça m'a suffi. Qu'est-ce qu'on va chercher? Midi à 14h, quand le rabbin, il a dit, tiens, je vous tiens pas juste. Est-ce que c'est clair? Vous allez me dire, bon, mais ça, c'est un rabbin sioniste. Et alors, qu'est-ce que c'est, ça, un rabbin non sioniste? Voilà, vous avez compris le problème. Alors, je ne vais pas ouvrir trop de parenthèses. Faites bien attention à ça. C'est que nous avons un grand risque dans notre temps. C'est le risque qu'il y a eu au temps du Beit Sheni. la différence entre les pharisiens et les sadducéens. Et les sadducéens, c'était des grands talmidim des chachamim, des misvot qui pratiquaient. On les appelait aussi, les koutim. Les maîtres des pharisiens disaient, si tu vois un kouti pratiquer une misva, observe-le, parce que quand il fait une misva, il la fait bien. Okay. Mais fais pas comme lui. Et ils ont disparu. Et vraiment, ils ont disparu. Il y a des traces dans le Talmud des pharisiens. Des discussions avec des coutumes, ou quelques sadducéens. Ils ont disparu. Alors c'était eux qui tenaient le culte du temple, le rabbin Tarachit, et tout ce que vous voudrez. Okay. Ils étaient au gouvernement, c'était Sdouki. Le Kohen Gadol était Sdouki. Et je ne dis pas des blagues, c'est l'histoire. Hein. Ils ont disparu. Et alors, quelle est la différence entre les pharisiens et les... Tous les juifs descendent des pharisiens. Les sadducéens ont disparu. Mais la tendance au sadducéisme n'a jamais disparu. Et à chaque génération, ça ressort. Quel bec. Je ne sais pas comment on dit ça en anglais. Et là, ça a commencé par Léo Beck. Vous avez entendu parler de Léo Beck? Je ne savais pas qui c'est. Pour revenir au sujet, je vais vous dire rapidement la différence, parce que c'est très important pour tous ces sujets que j'ai touchés en passant. Il y a eu l'arrêt de la révélation prophétique. Et au moment de l'arrêt de la révélation prophétique, le dernier prophète, Malachi, la fin du Tanakh, il y a un vide dans le monde. La parole s'est arrêtée. Et on a à la place un livre. La parole mise par écrit, et ceux qui savent lire le livre, les Chachamim. Et très rapidement, il y a eu deux sortes de Chachamim. Ceux des Sadducéens et ceux des Pharisiens. Je schématise, il y avait aussi d'autres sectes, une foultitude de sectes, en particulier les Esséniens, mais les chrétiens sont sortis des pharisiens, quelles que soient les mahlokettes qu'il y a à l'université, ils savent pas de quoi ils parlent. Les chrétiens, c'est une hérésie des pharisiens. Mais quoi qu'il en soit, on les rattache aux Esséniens, mais c'est pas vrai. C'est pas si simple que ça, mais c'est autre chose. Et la tendance à l'essénisme, d'ailleurs, n'a pas disparu. Et je ne vais pas vous le diagnostiquer, c'est pas le sujet du cours. Maintenant, un jour, on fera de l'histoire sainte. Et alors, en tout cas, pour revenir au sujet. Le temps a passé. Les pharisiens, qui avaient des maîtres, qui étaient les disciples des prophètes, Ish mipi ish, jusqu'au dernier prophète qui a parlé au premier rave. Vous savez, la Gemara de Sanhedrin indique, Ezra est descendu à Babel comme fils de prophète, il est remonté comme père de Haram. C'est ce passage entre le temps des prophètes et le temps des Chachamim. Mais, et alors, ils avaient, les pharisiens, qui avaient des maîtres, qui étaient les disciples des prophètes, avaient des raisons historiques de savoir que ce livre, la Bible, c'est vrai. Et puis, ils étudiaient pour comprendre en quoi ils croyaient. Mais ils croyaient d'abord. Ils savaient que ce livre, c'est vrai. Ils le savaient par tradition historique depuis les prophètes, les Tanaïm, les Amoraïm, etc. Et puis, et cette chaîne est passée en Eretz Israël. Les écoles de Babel n'ont reçu la tradition que d'Eretz Israël. Ils étaient une galoute au deuxième degré. En tout cas, pour revenir à notre sujet, quand un pharisien étudiait, c'était pour comprendre en quoi il croit. Tandis que la Gemara explique ça comme ça, celui qui ne dit pas bracha avant d'étudier, et qui ne reconnaît pas que c'est révélé, il aura beau étudier, il n'aura rien lu. Les sadducéens, eux, avaient entre leurs mains un livre prestigieux, le livre des livres, comme disait Buber, la Bible, et vous savez combien il y a de docteurs en Bible qui gagnent leur vie avec des versets qui coupent en morceaux. Vous savez ça, okay. Prenez mon croisé avec. Et alors, ça s'appelle même la critique biblique. Bikuret Amikra. Par hasard, il pose une question juste. C'est Bikuret Amikré, le hasard. Okay. Pour revenir au sujet. Ces sadducéens avaient un livre dont ils étaient fiers. La sagesse des nations, la sagesse pour les nations. Et alors, ils étudiaient pour essayer de comprendre et ils croyaient dans ce qu'ils comprenaient. Il y a eu la différence. Ça n'a rien à voir comme résultat. C'est le même livre. La méthode est tellement différente que finalement on se sépare, ça n'a plus rien à voir. Est-ce que c'est clair? Ça n'a pas pris longtemps que les sadducéens ont disparu. Est-ce que c'est clair, ces choses-là? Alors, je referme la parenthèse. Bon. Alors, faites bien attention à ça. C'est une règle du Foran Aruch, mais qui est très importante. Quand on a une Sheila, il faut aller voir le Dayan. Ce n'est que quand il y a Shratatrak, ça veut dire cas d'extrême, extrême urgence, qu'on ouvre le Foran Aruch. Et la plupart du temps, le Dayan vous explique après que vous ne savez pas lire. Mais fais bien attention à ça. Alors, je referme la parenthèse. Là, ce que je voudrais, c'est maintenant poser la deuxième question du lien de la loi du Shabbat, mais avec la construction du tabernacle. Je ne sais vraiment pas si j'aurai le temps. Attendez, je vois quelle heure il est. Non, je préfère aborder tout de suite le deuxième sujet que je voulais étudier avec vous, qui me paraît assez important. Et si le reste du temps, je reviens au lien entre le Shabbat et la construction du tabernacle, c'est-à-dire les premiers versets de la paracha. Et sinon, on le verra une autre fois. Mais prenons les premiers versets de la paracha. Chapitre 35. Voyakel Moshe et Kol Adat Bnei Israël, Vayomer Aleihem. Et Moïse rassembla toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, voici les paroles, Asher Tziva Hashem Lahasototam, que Dieu a prescrit de les faire. Il s'agit des lois concernant les 39 travaux interdits le Shabbat. J'en parlerai très très rapidement. Verset 2. Sheshet Yamim Te'aseh Melacha, pendant 6 jours, l'œuvre, comment on dit ça en français, l'œuvre du travail de chacun, du métier de chacun sera faite, les 6 jours de la semaine. Ou Bayom HaShavi, et le 7e jour, Yelachem Kodesh, sera pour vous consacré, Shabbat Shabbat Olashem, c'est un repos absolu pour Dieu. Kola Osebo Melachayumat, tout celui qui fera du travail ce jour-là, mourra. Surtout le verset 3. Vous n'embraserez de feu dans aucune de vos demeures le jour du Shabbat. Ce verset, c'est pour indiquer que quand le Mishkan aura été construit, on peut allumer le feu dans le Mishkan pour le sacrifice du Shabbat, mais pas dans les autres demeures. Alors, ce que je voulais étudier avec vous, c'était le lien entre le Shabbat et la construction du Mishkan. Vous verrez dans le texte que je vous ai donné sur la paracha de Pekoudé, une indication à ce sujet dans le texte de la paracha de Kemitzion. Mais très rapidement, moi je ne sais pas si j'ai le droit, très rapidement je vous cite un enseignement sur voici les choses que Dieu a prescrit de les faire et que ça se réfère aux 39 travaux interdits le Shabbat. J'ai sous les yeux une source dont je vous donne la référence. C'est la Gemara de Shabbat, page 97b. Prenez le verset. Voilà ce qu'explique la Gemara. Comment on sait qu'il y a 39 travaux interdits le Shabbat? Il y a un drash sur Dvarim. Hadvarim, Eleh Hadvarim. Regardez sur le verset, sinon vous verrez. Mais Eleh Hadvarim. Alors Dvarim, c'est le verset 1 du chapitre 35. Vous y êtes? Voici les choses que Dieu a prescrit de les faire, et il s'agit des 39 travaux interdits le Shabbat. Alors, Dvarim, ça fait 2, c'est un pluriel. Hadvarim, ça fait 3. La valeur numérique de Elé, c'est 35. 35, c'est 36. 36 et 3, ça fait 39. Ça, c'est comme ça que le Talmud travaille. Okay? Parce qu'on va établir, d'autre part, dans la Gemara de Shabbat, qu'il y a 39 travaux de base qui sont appelés travaux pour interdiction du Shabbat. D'autre part, c'est interdit de se fatiguer. D'autre part, le repos, qui est en extérieur. J'avais un peu parlé de ça, je crois, la semaine dernière. Et il y a une autre manière d'établir ces 39 travaux qui nous donne plus intimement le lien entre la construction du Mishkan et le Shabbat. C'est que le récit de la Torah montre que Dieu a façonné le monde en 6 jours. Le 7e, il a cessé d'agir et l'histoire humaine commence. L'histoire humaine est logée dans le 7e jour du commencement. On le sait par le fait qu'il n'y a pas à la fin de l'œuvre du 7e jour, et ce fut soir, ce fut matin, jour 7e. Là, je vous cite Abondé Rabbi Nathan, qui indique, à la fin des temps, il sera écrit, ce fut soir, ce fut matin, jour 7e. Le 7e jour du commencement sera achevé. Le 7e jour, c'est le jour où le monde est transformé en nature pour que l'histoire de l'homme commence. L'histoire de l'homme consiste à transformer le monde des 6 jours en un temple où Dieu et l'homme peuvent résider ensemble. Pendant les 6 jours, Dieu réside seul dans le monde. Pendant le 7e jour, Dieu se retire, se cache, et c'est l'homme qui est le maître du monde. Et pendant le 7e jour, Dieu doit transformer le monde du 7e jour dans le monde du 8e jour où Dieu et l'homme seront ensemble. La préfiguration de ça, c'est le temple. Qu'est-ce que c'est le temple? C'est la maison où Dieu et l'homme cohabitent. Le secret de la Torah, c'est que le secret de cette cohabitation, c'est la morale, la vertu morale. S'il n'y a pas vertu morale, il y a une opacité. La sainteté permet à l'homme et à Dieu de résider dans la même maison. Alors, le temple, c'est la maison parfaite, où l'homme parfait mange le repas parfait, habillé des vêtements parfaits. Et c'est cela le culte de la Torah, la vie dans l'absolu, devant Dieu. Et alors, effectivement, le culte dans le temple, c'est le repas parfait, mangé par l'homme parfait, le Kohen Gadol, le Kohen, habillé des vêtements parfaits dans la maison parfaite. Et alors, les 39 travaux interdits le Shabbat, ça c'est le compte donné par la Kabbalah, par le Zohar, c'est les trois comportements qui permettent de construire la maison, de fabriquer les vêtements et de préparer le repas. Ça fait trois unités de travail, chacune d'entre elles a 13 dimensions, Echad c'est 13, 3 fois 13, 39. Vous avez vu, donc, qu'est-ce que veut dire le Mishkan ? Le Mishkan, c'est la maison que l'homme doit préparer pour que Dieu et l'homme puissent se rencontrer. Pendant les 6 jours, Dieu aménage le monde pour que l'homme y habite, il se retire, il se cache. Pendant le 7e jour, l'homme aménage le monde en temple, et lorsque le temple est construit, on est au 8e jour. C'est clair ? Alors vous verrez que dans le chapitre 9, verset 1 de Vaïkra du Lévitique, le jour où le temple a été construit, le Mishkan a été construit, est appelé le 8e jour. Vous verrez vous-même le référent. Et il arriva, voyez ma cheminée. 8e jour de quoi, vous verrez là-bas. Mais comparez ces deux notions. Alors ça, c'est très très brièvement la relation entre le rappel du Shabbat et la construction du tabernacle. La construction du tabernacle, c'est à travers l'enseignement de la construction du tabernacle qu'on apprend qu'est-ce que c'est que travailler. Le travail de l'homme dans le monde consiste à transformer le monde en temple. Alors une fois, sur un point de l'histoire, sur un point du monde, dans un point du temps, ce temple a été construit comme modèle de ce que sera le monde au 8e jour. C'était le temple de Jérusalem. Et c'est pourquoi vous organiserez ici tous les midrashim qui disent « Le monde entier ne sait pas ce qu'il a perdu quand le temple a été détruit. » Quand le temple est construit, le temple de Jérusalem, Dieu et l'homme sont co-présents sur terre. Quand le temple est détruit, ils se séparent. Et l'exil recommence. Bon, voilà en tout cas le jeu. Alors voilà, il me reste une demi-heure à peu près, j'espère, oui. Un peu plus, tant mieux. Ça vous aurait même un peu de temps pour les questions. À condition que je fasse pas trop de parenthèses. On va voir les versets suivants. Alors voilà, la paracha de Vayakhel, c'est la récapitulation de toutes les lois qui ont été données avant la faute du Vaudor pour la construction du tabernacle. Et ici, la Torah récapitule, depuis Vayakhel et Pekoudé, comment le tabernacle a été construit après la faute du Vaudor, c'est-à-dire, en le temps prend en plus que la fonction d'adoration, il prend en plus la fonction d'expiation de la faute. Le sacrifice est premièrement un sacrifice d'adoration, mais voilà qui devient aussi, en plus, expiation de la faute. Retenez bien cette formule. Avant Kittissa, la construction du Mishkan, c'est pour ce geste de vie que j'ai décrit. Mais la vie entrée dans la faute, ce geste de vie doit être aussi expiation. Après la faute du Vaudor, alors c'est la dimension expiation qui prend le pas, d'où l'importance du jour de Kippour. On va avoir 2 minutes, puisque j'ai 2 minutes. Prenez le premier Rashi. Vayakhel Moshe, et Moïse rassembla. Attendez, avant de reprendre ça, je voudrais donner un petit complément à la réponse que j'ai donnée à la question. C'est une question très importante. Avant l'apparition des hérésies dans le deuxième temple, il y avait un rite particulier pour les 10 commandements. Et à cause des sectes qui ont mis en évidence les 10 commandements,